Vous écoutez RFI, la radio du monde, il est 21h en temps universel, 23h à Paris. Et le journal est présenté par Diane Berger. Bonsoir Diane.
Bonsoir Claudiciard, bonsoir à toutes et tous. Ce soir, les troupes israéliennes ont mené leurs premières incursions terrestres au Liban contre le Hezbollah. Ce sont les États-Unis qui l'ont annoncé il y a quelques heures, une opération qui était redoutée notamment par le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. L'armée israélienne a également donné l'ordre d'évacuer aux habitants de trois quartiers de la banlieue sud de Beyrouth, la capitale libanaise. Nous ferons le point sur ce que l'on sait avec notre correspondante sur place, Laure Stéphan. Aux États-Unis, le bilan de l'ouragan Helene pourrait s'élever à 600 morts. Plus au sud, en Haïti, la mission multinationale de soutien à la police est prolongée d'un an face aux violences des gangs. Et puis au sommaire de ce journal également, du cinéma avec la sortie en salle de All We Imagine as Light, un film indien sur trois femmes qui essayent de s'émanciper des règles de leur quotidien. C'était redouté par plusieurs capitales internationales, Paris et Washington notamment. Nous l'avons appris par les États-Unis. Selon la Maison-Blanche, ça y est, Israël mène ce soir des opérations terrestres dans le sud du Liban. Elles seraient limitées, selon cette même source. Et on retrouve tout de suite notre correspondante à Beyrouth, Laure Stéphan. Bonsoir Laure.
Bonsoir.
Que sait-on de la situation ?
Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de confirmation côté libanais que l'offensive terrestre israélienne a commencé. Mais de nouveau, les bombardements sur le sud du Liban se sont intensifiés dans la soirée à la frontière, mais aussi jusqu'aux environs de Saïda, une ville méridionale éloignée. Et des mouvements se déroulent au sol. La FINUL, la force de l'ONU, a annoncé qu'elle suspendait ses patrouilles. Ce n'est pas une force d'interposition, mais elle est censée observer les violations de la résolution 1701 par Israël et par le Hezbollah, censée aussi être une force de déconfliction. Elle annonce ce soir qu'elle suspend ses patrouilles, réduisant donc encore davantage son rôle. C'est aussi l'armée libanaise qui replie une partie de ses troupes à l'écart de la frontière. Elle n'a pas les capacités militaires pour faire face à un conflit avec Israël. Les rumeurs d'incursion renforcent en tout cas la fébrilité déjà là depuis des jours. Elle rappelle aux Libanais de mauvais souvenirs, l'invasion israélienne de 1982 jusqu'aux portes de Beyrouth et les opérations terrestres lors de la guerre de 2006. Avec une inconnue cette fois, comment le Hezbollah affaibli va-t-il réagir ? L'armée israélienne a par ailleurs de nouveau bombardé la banlieue sud de Beyrouth ce soir, deux fois de suite, dont une détonation très forte. Et au-dessus de la capitale, toujours le grésillement des drones de surveillance.
Merci beaucoup Laure Stéphan, direct de Beyrouth pour RFI. On le rappelle, depuis la mi-septembre et l'intensification des frappes israéliennes, le bilan au Liban s'élève à plus de 1000 morts selon le ministère de la Santé du pays. En plus de ce lourd bilan humain, cette guerre paralyse un Liban déjà livide. Les finances nationales risquent de plonger encore plus après déjà plusieurs années de crise économique grave. L'agriculture notamment est particulièrement touchée depuis le début des affrontements, Alexis Bédu.
Des cultures dévastées, des forêts incendiées, des terres agricoles détruites dans le sud du Liban, région qui tire 80% de son revenu de l'agriculture. Des dizaines de milliers d'oliviers ont été perdus. Les exportations de fruits et d'agrumes ont reculé de 60% selon l'Institut Statistics Lebanon. Des usines et commerces ont également été détruits dans le quartier de Dahriyeh, au sud de Beyrouth. La guerre ne fait qu'empirer une situation déjà catastrophique, explique Joseph Daher, professeur en sciences sociales et politiques à l'Université Cité de Lausanne.
Dahriyeh est composée d'à peu près 500 000 à 600 000 personnes, c'est une population importante. La consommation a fortement diminué, ça, il va de soi. Les arrivées, que ce soit de Libanais, Libanaises ou d'étrangers dans le pays, a fortement été réduit, et cela depuis 7 octobre, mais encore cela s'est accéléré dans les 10 derniers jours, affectant le tourisme. On est très loin de voir un redressement de l'économie libanaise, malheureusement, et cette guerre ne fait qu'approfondir la crise économique.
Les revenus du tourisme représentent un tiers du PIB libanais. En 5 ans, la livre libanaise a perdu plus de 98% de sa valeur par rapport au dollar. Les populations ne peuvent suivre le rythme d'une inflation record qui a rendu les produits de base extrêmement chers.
Alexis Bédu, et nous venons de l'apprendre, l'état-major français déploie un navire militaire par précaution dans la région en cas d'évacuation. Toute la situation au Liban, on y revient également en détail et par écrit sur notre site web rfi.fr, sur la page de notre direct. L'ouragan Helene pourrait avoir causé la mort de 600 personnes aux États-Unis. C'est l'estimation donnée ce soir par la Maison-Blanche, alors que le bilan actuel est pour l'instant de près de 110 morts. Joe Biden, le président américain, le promet. Le gouvernement fédéral va fournir de l'aide aux populations touchées aussi longtemps que nécessaire. À quelques semaines de la présidentielle, les républicains en profitent pour accuser les démocrates au pouvoir de mal gérer la catastrophe. Les renforts internationaux en Haïti vont rester. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'un an ce matin la MMAS, la mission multinationale d'aide à la police haïtienne, une force menée par le Kenya. Le président kényan avait d'ailleurs annoncé la semaine dernière déployer 600 hommes supplémentaires d'ici la fin du mois de novembre. La Jamaïque, Belize et les Bahamas s'engagent également à envoyer des troupes. Les détails avec notre correspondante à New York, Karine Houghton.
Finalement, la résolution demandant le renouvellement du mandat de la MMAS pour un an a été votée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil ce matin, mais une idée a été abandonnée par écrit, celle de réfléchir à sa mutation en opération de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU. Cela crispait Pékin et Moscou, et depuis que cela a été officiellement demandé par Haïti à l'Assemblée générale, les diplomates américains ont jugé non nécessaire d'en faire un point de blocage et l'ont omis du texte. Cet appel a d'ailleurs été réitéré par l'ambassadeur haïtien Antonio Rodrigue.
Il ne fait aucun doute que la mission doit être renforcée pour être pleinement opérationnelle. La transformation de la MSS en une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations Unies apparaît non seulement nécessaire, mais urgente. Une telle transformation garantirait non seulement un financement plus stable par le biais des contributions obligatoires des États membres, mais permettrait également d'élargir les capacités de la mission à un niveau adapté à l'ampleur des défis actuels en Haïti.
Son homologue kényan a avancé que la stabilité en Haïti ne pourrait être assurée qu'une fois les causes profondes réglées. Le commerce illicite des armes provenant des États-Unis, malgré l'embargo, restant l'un des points rouges. Karine Houghton, New York, RFI.
La liberté de la presse toujours restreinte en Russie. Trois journalistes ont été arrêtés ce soir à Moscou. Ils couvraient pour des médias indépendants un concert célébrant le deuxième anniversaire de l'annexion de régions ukrainiennes revendiquées par l'État russe. Ces journalistes sont accusés de hooliganisme. Et puis ouvrons maintenant une page culture avec un film indien qui s'est fait remarquer au Festival de Cannes cette année. All We Imagine as Light. On pourrait traduire ce titre par tout ce que l'on imagine comme de la lumière. C'est le premier film de fiction de la réalisatrice Payal Kapadia qui a remporté le Grand Prix du Festival. Il s'agit du portrait croisé de trois femmes dans la ville de Bombay. Elisabeth Le Quéret.
C'est le portrait intimiste d'une Inde au féminin que dessine Payal Kapadia, 38 ans, dans All We Imagine as Light. Prabha est infirmière à Bombay. Sans nouvelles de son mari depuis des années, elle s'interdit toute vie sentimentale, tandis que sa colocataire brave les interdits en fréquentant un musulman. Les deux femmes tentent d'aider leur amie Parvati, veuve et dernière habitante d'un immeuble en démolition. Pour chacune, la recherche de l'amour et le rapport aux hommes révèlent d'inextricables déterminismes sociaux et religieux qui entravent leur quotidien. Kapadia vient du documentaire, elle filme Bombay comme personne à travers ses trois héroïnes perdues dans la foule. Avec ses couleurs saturées, ses plans ouverts aux quatre vents, le film agit comme un kaléidoscope prenant finement le pouls de cette cité tentaculaire de 21 millions d'habitants, lucide quant aux contraintes qui pèsent sur les femmes, mais aussi doux et limpide.
All We Imagine as Light, présenté par Elisabeth Le Quéret, il sort dans les salles françaises ce mercredi. La disparition d'une légende de la NBA, le basket américain. L'ancien joueur congolais Dikembe Mutombo est mort, emporté par une tumeur au cerveau à l'âge de 58 ans. Ce pivot de près de 2,20 m était l'un des plus grands noms de la discipline. 8 fois All-Star dans les années 90 et 2000, sacré 4 fois meilleur défenseur de l'année. Et puis c'est tout un symbole dans le football français. Antoine Griezmann ne jouera plus en équipe de France. Griezou, 137 sélections, 10 ans d'expérience avec les Bleus, a annoncé ce lundi prendre sa retraite internationale. Il est maintenant quasiment 21h10 en temps universel, c'est bientôt la fin de ce journal. Merci beaucoup d'écouter la Radio du Monde. Le prochain point sur l'actualité, c'est dans 50 minutes avec Martin Guèze.